Bonsoir à tous et bienvenue. C'est une soirée des amis qui ont organisé cette soirée. C'est dans le cadre des les amis invite. Et ce soir, donc, on a le plaisir d'avoir avec nous, comme vous le savez, Bartholoméo Marie, qui est donc le directeur de MacBar à Barcelone, qui nous laisserons tout de suite la parole, très rapidement, évidemment. Mais je voulais quand même vous parler juste une minute des amis, ce qu'on fait. On a déjà ces conférences dans le cadre des amis invités, donc. On a déjà eu Patricia Sandretto Rere de Burgo, de la Fondation Homonyme, et à Turin, et Martin Bettenau, Hubert Martin, et grâce à ça, nous créons des liens avec des musées et des fondations qui nous permettent aussi de créer des liens avec les amis éventuellement des musées pour avoir des échanges et aussi de préparer certains voyages au cours desquels on est souvent reçu d'une façon sympathique par les directeurs, enfin par les musées ou les fondations. Nous avons déjà fait des voyages, on est fait toujours à Venise, toutes les biennales depuis, les amis existent depuis 5 ans. Donc, les biennales de Venise, on a fait 3 voyages à Venise, on a fait Cassel, ainsi que, Cassel, Documenta, Marseille, tout dernièrement. On fait aussi des petits parcours plus courts. On est allé, par exemple, voir l'exposition Poirier à l'Arbrel, au couvent de la Tourette. Ensuite, ce sont les activités que nous, il y a plusieurs activités que nous faisons. En fait, nous agissons pour soutenir l'Institut et faire en sorte qu'il puisse avoir plus de rayonnement. Voilà, merci. Voilà. Par ça, très importante aussi, tous les ans, on va à la FIAC avec les amis. Enfin, on voyage à la FIAC. Nathalie nous accompagne, nous introduit dans les galeries. Ce sont toujours des moments très intéressants. Bon, je dis pas tout. Peut-être que je devrais parler de la production des multiples. Et voilà. Bon, enfin, il y a plusieurs activités, plusieurs choses qui sont faites. Je vous invite, si ça vous intéresse, il y a le trésorier qui est là, donc s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire, ou certains qui ne sont pas encore à jour avec leur cotisation, ils peuvent le faire parce qu'il est là. et voilà, donc ça c'est la soirée. Les amis invitent, et maintenant je laisse la parole à Nathalie.
Oui, on va confisquer la parole à Bartholoméo. Non, en fait, aussi dans ce cadre, merci aux amis de nous permettre de croiser les expériences, les partages d'expériences avec soit des confrères en effet de musée, soit des confrères qui sont sur un autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire galerie ou fondation. Donc privé public, il n'y a pas de frontières, et en même temps c'est comment des personnalités avec un parcours aussi important, intéressant que Bartholoméo Marie par exemple peut nous transmettre sa propre histoire, sa manière de voir sa relation à l'art et sa manière de le mettre en pratique. Et donc dire en effet que parce qu'on s'est croisés il y a 20 ans en Belgique, donc
me tutoyer.
Voilà, de toute façon. Et donc directeur depuis 2008 du MACBA à Barcelone, après avoir été à la tête du département des expositions. Et en fait, je crois que le moment où moi j'entendais parler d'Augustinette, c'était quand tu étais le conservateur de l'architecture de Bruxelles en 89-93. Hein, c'était cette période-là. Et puis, tu es allé à l'IVAM de Valencia de 94 à 96. Puis, un moment aussi important pour, non pas que l'IVAM c'était pas important, c'était fondamental, mais après, du point de vue de ce qu'on a pu suivre et des expositions que moi j'ai même, auxquelles je me suis, que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, c'était de 96 à 2002, tu as pris la direction du Vite de Vite, le centre d'art de Rotterdam. Donc, puis, j'ai un peu moins suivi, je dois dire, sur Saint-Sébastien, mais bon, c'est un endroit que j'adore. Et...
C'était très ennuyeux, on n'a pas fait d'expo là-bas.
Bon, alors voilà. Donc, et en fait, on peut effectivement citer les expositions monographiques formidables que tu as pu réaliser. Il y a divers noms comme Acconci, Baldessari ou Laurence Wiener qui devient ton trait d'union avec mon prédécesseur fondateur Jean-Louis Mauban, parce que Laurence Wiener a fait deux expositions ici, c'était oui. Une maison très importante pour lui. Nous deux, on pourrait se relier avec Matt Mullican, par exemple, qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, ou Michel François, donc et Rita McBride, donc les sujets sont ouverts, et en tous les cas, écoute, merci d'être parmi nous et nous t'écoutons.
Merci beaucoup Nathalie, et merci beaucoup aux amis de l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, qui est une institution que je connais depuis presque sa fondation. Je me souviens de venir à des vernissages ou voir des expositions avec une certaine régularité, par train, en voiture, depuis Bruxelles, fondamentalement. Et je me souviens en particulier de la présentation publique, l'inauguration d'une sculpture publique que Jean-Louis Mauban avait pilotée, avait commandée à Laurence Wiener. C'est la Marelle, qui doit se trouver pas loin d'ici. Je vais essayer d'abord de contrôler la montre pour ne pas trop me disperser. J'aimerais qu'à la fin, on puisse quand même garder un peu de temps pour s'il y a des questions ou des commentaires, avoir un moment de dialogue avec vous. Je ne suis pas historien d'art et je suis un très mauvais historien de moi-même ou de ce que j'ai fait. Donc, et vous le verrez. Aussi dans mon banc d'images, la mémoire visuelle de toutes ces années de travail, comment je garde d'une manière chaotique et très mélangée des choses, des informations, des images, des données qui devraient être mieux ordonnées. Mais c'est la vie. Et je pensais aussi, par rapport à tout ça, en 2008, il y a un Willoughby Sharp qui est décédé. Willoughby Sharp était, d'après lui-même, le premier commissaire ou conservateur non affilié, en anglais, non-affiliated curator, parce que Willoughby Sharp maintenait qu'il ne peut pas y avoir de commissaire indépendant. L'indépendance, cela n'existe pas. Willoughby Sharp a été le commissaire entre beaucoup, beaucoup d'autres expositions de la première exposition de Land Art, identifiée comme telle, qui s'appelait le Earth Show, en 1969. Et entre 1970 et 1976, il a dirigé ou il a co-dirigé la revue Avalanche, qui est un document d'art contemporain extraordinaire pour connaître l'art qui se fait dans ces... surtout aux États-Unis, mais aussi il y avait un lien très important avec l'Europe, non seulement dans les années, fin des années 60 et pendant les années 70, mais aussi au-delà. Willoughby Sharp est le premier commissaire indépendant qui se rend compte de la valeur de la documentation des expositions. Et moi, j'ai appris de l'existence de Willoughby Sharp et de ses idées trop tard. Donc souvent, je ne compte qu'avec une ou deux images des expositions qu'on a fait. Je vais essayer de transiter par quelques exemples de ces expositions, pas les plus spectaculaires, parfois peut-être pas les plus significatives, mais celles qui illustrent aussi une problématique que je pense l'Institut d'art contemporain vit aussi. C'est la tension, la distance, le rapport entre trois stades de l'existence d'une œuvre d'art, qui est la production, l'exhibition, l'exposition, le fait de l'exposer, de la donner à voir au public, et la collection. Après de nombreuses années de faire des expositions avec des artistes, des artistes âgés, des artistes jeunes, des artistes morts, je me suis confronté en 2008 à l'opportunité, ou à l'obligation, si vous voulez, mais en tout cas, je dirais au privilège, de développer la collection du MACBA. Et après de nombreuses années de faire de contribuer à faire des œuvres d'art, de les mettre dans le monde et les disperser, je suis commencé à m'intéresser pour les retrouver, ou les reconstruire, ou les récupérer. Pas toutes, évidemment, sinon ça serait horrible, ça serait imbuvable. Mais l'expérience de la production et de travailler avec les artistes a été très importante pour comprendre la valeur et la valeur des œuvres d'art, surtout leur valeur artistique et leur valeur culturelle. Du marché de l'art, j'en connais très peu de choses. J'ai appris à être en rapport avec des œuvres d'art à partir de l'activité de l'artiste, c'est-à-dire de comment l'artiste l'a vécu, l'a fait, l'a proposé, l'a décrit, l'a exposé. Et une question importante, je pense, pour les gens qui, comme nous, travaillent avec des artistes et faisons des collections publiques ou à destination publique, à vocation publique, et de pouvoir expliquer pourquoi une telle œuvre est plus importante qu'une autre, ou pourquoi l'œuvre d'un artiste en général a une valeur intrinsèque qui demande de être collectionnée et mise à disposition du public. Quand est-ce que l'œuvre doit commencer à faire partie de l'histoire de l'art, avec toutes les tensions et toutes les contradictions imaginables lorsqu'on n'a pas de recul historique avec les œuvres en question. Ce que nous voyons ici, c'est une image de l'exposition de Dan Graham que j'ai fait à la Fondation pour l'architecture à Bruxelles. À mon avis, c'est autour de 90-91. Je venais d'arriver à Bruxelles en 89. La Fondation pour l'architecture était une association loi 1901, une association sans but lucratif, avec très peu de moyens, mais avec beaucoup de liberté. Ça, c'est une chose aussi où je me rends compte maintenant. Les institutions, quand elles ont plus d'argent, elles ont moins de liberté. Il y a un rapport inverse. Plus d'argent, moins de liberté. Moins d'argent, plus de liberté. Donc, on n'avait pas un rond, mais on faisait ce qu'on voulait. Et je montre aussi ces images parce que j'ai trouvé... Alors, de ces expositions... que je faisais dans une salle d'environ 100 mètres carrés, un peu plus petite que cet auditorium, et qui était dans le même bâtiment de cette Fondation pour l'architecture qui faisait des expos d'architecture à Bruxelles, dans le centre de Bruxelles. De ces expositions, on ne gardait que deux ou trois images. Donc, en voici une. Mais j'ai trouvé les photos noires et blancs qui étaient faites pendant le vernissage. Et je dois dire aussi que cette exposition présentait des maquettes de pavillons de Dan Graham. Je pense que Dan Graham est aussi un artiste très important dans la collection de l'Institut. Je je ne voudrais pas me tromper, mais je pense qu'il y avait un rapport très important aussi de Jean-Louis Mauban avec Dan Graham dans les années, fin des années 80, début des années 90. C'est un artiste en tout cas qui est bien représenté dans les collections françaises. Ça, c'est une exposition qui présentait les projets auxquels Dan Graham travaillait au début des années 90. Et c'est la première exposition que Dan Graham faisait après avoir été à l'hôpital où il avait été soumis à des traitements d'électrochoc. C'était la première expo donc, qu'il faisait en 2 ans, où il avait plus ou moins disparu. Je me souviens de d'avoir été à l'hôpital le voir pendant ce traitement. Et nous avions préparé cette exposition avec des croquis qu'il nous envoyait par fax. C'était l'époque du fax. Moi, je me souviens, quand j'arrive à Bruxelles en 89, c'était mon premier boulot dans une institution, je découvre le fax, je découvre le premier ordinateur. Il n'y avait même pas de souris. Mais par fax, on recevait les croquis. Comme on était chez des architectes, les architectes faisaient des plans, faisaient découpaient donc le patron, comme si c'était un vêtement. Ils découpaient les pièces. Et ensuite, on était allé chez Glaverbel, qui est une grande boîte de production de verre, une grande multinationale belge de production de verre, et on leur demandait des verres coupés à la mesure et dans les qualités spécifiques que Dan Graham nous avait demandé. Dan Graham travaille précisément, il fait des sculptures qui utilisent le verre et qui jouent avec des qualités de réflexion, miroir, transparence, semi-transparence, semi-réflexion, selon les changements de la lumière naturelle. Donc on voit plus ce qu'il y a à l'autre côté du verre, on se voit soi-même. Donc ensuite on les avait assemblés nous-mêmes avec l'aide de deux personnes qui travaillaient à la fondation. C'était un menuisier encadreur et un objecteur de conscience. Et on les avait unis avec de la silicone. Ce que vous voyez, c'est ce que nous avions fait avec nos propres mains. On n'avait même pas de l'argent pour transporter ou faire des caisses. Mais c'était une des premières expos, c'était extraordinaire. Voilà des photos du vernissage. Ça, c'est un peu mon album. C'est la première fois que je montre ça en public. Mais comme s'il s'agit d'un événement public... je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. À droite, on voit Dan Graham, l'artiste. Au centre, on voit Charlie Schweitzer, le mari de Micheline Schweitzer, la galeriste d'Anvers. Et à gauche, c'est une grande amie dont je dois admettre, je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Mais elle était très active dans le monde de l'art bruxellois du début des années 90. Voilà une autre vue de l'exposition. À nouveau, les maquettes faites à la main, sauf celle qui est au fond. Au fond, on voit Alteration of a Suburban House, une œuvre extraordinaire de Dan Graham, dont Jeff Wall a écrit longuement et largement sur son importance pour l'art de la deuxième partie du XXe siècle. C'est une pièce qui appartient à la collection de Herman Dallet. Collection qui en grande partie vient d'être vendue au MoMA récemment. Je ne sais pas si cette pièce fait partie de l'achat du MoMA ou pas, mais il nous l'avait prêté ensemble avec une autre pièce de Dan Graham. Herman Dallet, le grand collectionneur belge, faisait partie du conseil d'administration de la Fondation pour l'architecture. Donc quand je suis arrivé à Bruxelles, je connaissais déjà Dan Graham, et Dan Graham m'avait mis en rapport avec 3 personnes. Une personne, c'était Hans Sonneveld, le fils de son premier galeriste. La deuxième personne, c'était Chris Derkon. Et la troisième personne, c'était Herman Dallet, qui m'a beaucoup aidé à cette époque-là. À droite, on voit Birgit Pelzer, une grande spécialiste en art contemporain, grande spécialiste de Marcel Brotars, de Dan Graham, de tout l'art des années 60 et 70. À gauche, le monsieur dont le nez est coupé par le bord de la photo. Si je ne me trompe pas, c'est Anton Herbert, aussi le grand collectionneur de gants, que je n'ai pas connu jusqu'en 2004 ou 2005, quand je suis arrivé au MACBA. Il est venu au vernissage, je ne savais pas qui c'était. C'était une des plus grands collectionneurs d'art contemporain au monde, à mon avis. Mais il n'était pas venu s'identifier et personne ne me l'avait présenté. À nouveau, derrière Dan Graham, toujours avec le pull avec la bande blanche. À sa gauche, il y a Izzy Fisman, aussi un grand collectionneur. Et le monsieur en dessous de la colonne avec les petites lunettes et la moustache, c'est Mahmoud Bouchiba, le menuisier encadreur avec qui j'avais fabriqué toutes les pièces. C'est un portrait du monde de l'art de début des années 80 à Bruxelles. Voilà Roger Pellas avec le jeune qui l'aidait dans sa galerie. Roger Pellas était, c'est pas à moi d'expliquer l'importance de Roger Pellas dans l'art contemporain en France, mais il a été une des personnes très importantes de plusieurs décennies, surtout dans les années 80 à 90. Roger Pellas avait financé le billet d'avion et une affiche dépliant qu'on avait fait à cette époque. On n'avait même pas de l'argent pour payer le billet d'avion de Dan Graham. Et Roger Pellas a dit de combien tu as besoin. Je te finance ce dont tu as besoin pour faire cette expo, avec la condition qu'après, tu me permettes d'exposer ces œuvres dans ma galerie à Marseille. Je lui ai dit, Roger, les maquettes, elles appartiennent, les pièces, elles appartiennent à Dan Graham. Tu t'entends avec lui, moi, je n'en ai rien à faire. Le jour avant le vernissage, Micheline Schweitzer, qui était la galeriste de Dan Graham en Belgique, a découvert que Roger Pellas allait récupérer ses pièces pour son exposition à Marseille. Elle est montée en colère. Elle m'a engueulé d'une manière scandaleuse et elle était très fâchée. Je pense qu'après, c'est devenu une anecdote entre Dan Graham, Micheline Schweitzer et Roger Pellas. Mais voilà ma découverte que dans le monde de l'art, il n'y a que des artistes et des musées ou des salles d'exposition, il y a aussi des galeristes et des collectionneurs. Et que quand ça touche à l'argent, ça brûle. Voilà encore le reflet de l'image de Roger Pellas dans une de ses œuvres. Et voilà Bartomeu Mari, il y a plus de 20 ans. Judith Barry était là, l'artiste et quelqu'un de... Voilà, Marie-Ange Braillère, directrice du FRAC Centre. Oui, aussi il y a plus de 20 ans. Je passe vite parce que les souvenirs des personnes n'est pas l'objet de cette... présentation, mais c'est une manière de reconstituer l'atmosphère d'une petite institution très pauvre mais très libre, dans laquelle on a pu produire des pièces assez exceptionnelles. Ça, c'est une pièce de Judith Barry sur l'art nouveau, à l'occasion d'une grande exposition sur un architecte peu connu mais extraordinaire qui a travaillé à Bruxelles à partir surtout de la moitié du 19e siècle, qui s'appelait Paul Ancard. On a développé le rêve d'inviter une artiste contemporaine à faire une œuvre qui puisse nous parler aujourd'hui, il y a de ça 20 ans, des valeurs et des intentions de l'architecture Art Nouveau. Et Judith Barry a fait un travail, on lui avait commandé un travail autour de l'exposition du Congo de 1850 et des, j'ai oublié exactement la date. qui est la grande exposition dessinée, donc mise en scène par Paul Ancard, et qui en fait est le grand projet publicitaire du roi des Belges pour faire la, pour vendre les, le Congo aux investisseurs belges. C'était de la pub pour avoir des investisseurs privés qui développent les richesses ou qui font l'extraction des richesses du Congo, aussi qui payent des taxes et des impôts au roi, et comme ça construire une des fortunes les plus grandes au monde en ce moment-là. C'était une triple projection qui se bougeait, donc une narration qui entourait le spectateur qui pouvait se trouver à l'intérieur. Mon Dieu, les images sont très très obscures. Sur mon écran, on voit beaucoup plus, mais vous imaginez trois écrans avec des images vidéo qui tournent. À l'époque, on projetait des images vidéo avec les grands projecteurs Barco. Donc, je ne sais pas si ça n'a rien à voir avec ce petit objet. Les projecteurs Barco étaient des meubles larges comme ça, avec trois canons de trois couleurs différentes dont il fallait, c'était très délicat de les synchroniser. Alors, ça a été d'abord, produire la vidéo, ça a été une folie totale, mais je me souviens, 5 minutes avant le vernissage, quand les gens étaient déjà à la porte, on n'avait pas encore fini de synchroniser. Il y avait un technicien qui a travaillé pendant une journée et demie, y compris la nuit, mais finalement ça a marché. C'était c'est une très très belle pièce, parlée, narrée. Il y a une narration très belle en français. C'est une pièce qui devrait exister dans une collection française, puisque si on la sous-titre, s'il y a des sous-titres qui marchent en dessous des images, ça ne marche pas du tout. Voilà la première exposition à la Fondation pour l'architecture, l'œuvre de Lang Lanson Bell, des artistes britanniques qui ont été qui ont une carrière très importante, mais jamais fulgurante. Ils sont jamais devenus des stars. Mais des artistes que je considère ont développé une œuvre assez intéressante. Ils ont exposé aussi au magasin à l'époque. Ça, c'est 89. Ça, c'est le Prince Charles avec Nigel Coates. Une exposition qu'on verra après. J'ai parlé du chaos de mes archives photographiques. Donc le voilà. Une exposition sur le travail de Marcel Brotars, surtout le travail en rapport avec l'architecture, mais la construction. Brotars est un poète à l'origine, et qu'à un moment donné décide ou se rend compte que peut-être il ferait mieux il aurait plus de succès et il gagnerait mieux sa vie s'il faisait de l'art au lieu de faire de la poésie. Il annule complètement son œuvre poétique et commence à faire de l'art contemporain, avec une grande influence de René Magritte, mais avec un grand sens de l'humour et avec une capacité de analyse et de critique de ce qu'on appelle depuis les années 90 aussi le système de l'art. Marcel Brotars est un des pères biologiques de ce qu'on appelle la critique institutionnelle. Brotars avait, d'une manière très discrète, avait utilisé, sans l'expliciter jamais, mais avec une grande constance à travers toute sa carrière, tout son travail, avait utilisé la figure du maçon comme une métaphore pour se représenter lui-même. Aussi, à Bruxelles, un des insultes le plus fort qu'on puisse diriger à quelqu'un, c'est de l'appeler architecte. Et ça, depuis l'époque où l'architecte Poulartz a construit le palais de justice, et auparavant a rasé, avait rasé, ça c'est la fin du 19e siècle, avait complètement rasé tout un quartier de logements populaires. Scrive, un architecte, est un grand insulte, et Maria Gillissen, la veuve de Marcel Bretars, m'avait beaucoup aidé pour rassembler toutes ces pièces qui sont faites avec ou qui représentent des briques, des murs, il y a même des pelles de maçons, tous les instruments avec lesquels on peut parler de la construction et d'un coup faire une exposition sur la. En hommage aux maçons dans une fondation d'architecture me paraissait quelque chose d'assez approprié. Je ne vais pas pouvoir commenter toutes enfin, ce serait même pas intéressant. Ça, c'est une œuvre de Marine Casimir, un artiste qui a aussi beaucoup travaillé en France et qui travaillait sur la sculpturisation de l'image photographique, je pense très en rapport aussi avec ce qui était une figure centrale dans l'art de l'époque, qui était Jeff Wall. Bon, ça c'était une exposition, je vais passer très vite et je vais essayer de concentrer. C'était une exposition des jeunes architectes de Moscou, les architectes de papier, comme on disait. On avait eu la bonne idée d'appeler cette exposition « Construire », parce que personne ne construisait. Aucun de ces architectes n'avait construit quoi que ce soit. C'était des projets sur papier, des architectures utopiques. Et c'était le moment de la perestroïka. C'était le moment où Gorbatchev avait décidé que le mur d'acier n'allait plus et... Je me souviens, on avait fait cette expo parce qu'on avait été invité par les Russes, par les Soviétiques, d'aller à Moscou et faire cette exposition. C'était aussi le début des années 90. Voilà que même les images sont répétées. Voilà encore une image perdue de l'autre ensemble de l'exposition de Dan Graham. Et je... Mais passé, ça c'est l'expo de Nigel Coates. J'ai fini mon passage par la Fondation pour l'architecture en faisant des expositions d'architecture. Ce n'est pas que je n'avais marre du monde de l'art, mais c'était en catalan, on dit qu'il fait bouger de l'huile finit par avoir ses mains. Oui, fini par s'en mettre sur les mains. Donc j'ai fini par avoir de l'architecture dans les mains après 5 ans de travailler avec les architectes. Voilà encore la première exposition que j'avais fait avec Mad Mulligan à l'époque. Mad Mulligan, Michael Tarantino, un critique d'art qui est malheureusement décédé il y a déjà 15 ans. On avait le rêve de... acheter une maison à Bruxelles et habiter dans la même maison. Rêve qui n'a pas eu lieu, mais on avait quand même pendant un an cherché ensemble à acheter une maison. À l'époque, les maisons à Bruxelles qu'on trouvait encore on trouvait encore très bon marché. J'essaye de... ça, c'est le travail de Peter Downsborough. Les expos étaient plutôt des productions, des commandes. Il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de frais de transport, il n'y avait pas de frais de caisse, il n'y avait pas d'assurance. Comme c'était le cas de beaucoup d'institutions, moi-même, avec l'aide de Mahmoud Bouchiba, on peignait les murs après chaque démontage et on accrochait toutes les expos. Je pense que ça, c'est la fin de Bruxelles, de l'histoire bruxelloise. Bruxelles est toujours une ville qui attire ou qui concentre un monde de l'art très intéressant, pas grand. Il n'y a pas une densité d'artistes comme à Londres ou à Berlin, mais c'est très sympathique. Comme ville qui peut permettre le développement d'une scène artistique très intéressante. Après Bruxelles, je suis allé à Livam. De Livam, il ne me reste absolument aucune image d'expo que j'ai faite. C'est une vraie catastrophe et j'ai essayé de les avoir à travers les archives du musée, mais ça n'a pas marché. Mais fin 95, j'ai été demandé de me présenter comme candidat à la direction de Vite de Vite, Chris Dercon, qui est à présent directeur de la Tate Modern, en avait été le directeur fondateur. Et j'étais à l'IVAM, il y avait eu des élections au gouvernement régional, il y avait eu un changement de gouvernement et on disait qu'ils allaient nous faire de nous mettre. Il y avait des voix qui disaient qu'ils allaient mettre à la porte l'équipe de conservateurs à ce moment-là, dirigée par Vicente Todolì, qui a été aussi le prédécesseur de Chris Dercon à la Tate Modern, qui avait été, après l'IVAM à Valence, avait été le premier directeur du musée de Serralves à Porto. Je présente ma candidature, je gagne le concours, fin 95, je pars à Rotterdam et je trouve un centre d'art dans une ville petite, industrielle, très, un peu brute, un peu rude, mais avec un désir très important de sophistication culturelle et avec une conviction absolument centrale, absolument solide, de confiance en l'internationalisation de sa scène culturelle. Donc, en 1986, le directeur du musée le plus important de Rotterdam, qui est la troisième ville de la Hollande, est un Belge, Chris Dercon. La directrice du musée d'architecture, c'est une Allemande, Christine Feirreis. Le directeur du festival de cinéma, c'est un Anglais, Simon Field. Et le nouveau directeur du centre d'art Vite de Vite, c'est un Espagnol. Au centre Vite de Vite, à nouveau, on pouvait tout faire, pas parce qu'on n'avait pas d'argent, il y avait un peu d'argent, mais parce que c'était la Hollande. Mais c'était une Hollande très différente. En 86, l'Hollande était radicalement différente de celle que j'ai quittée en 2001, et surtout celle que mon successeur, la personne qui m'a succédé, qui était Catherine David, a expérimenté. Catherine David a fait une expérience de la Hollande qu'elle a vécue radicalement différente de celle que j'ai faite. À Vite de Vite, on pouvait tout essayer. Et ça, c'était une exposition de laquelle aussi j'en ai très peu d'images. Donc, vous voyez que si j'avais su sur Willoughby Sharp plus tôt, j'aurais essayé de documenter les choses d'une autre manière. Mais ceci était une exposition qui essayait d'interroger les rapports conflictuels entre le jeu et le productivisme, c'est-à-dire entre le design et le play, le jeu, le fait de s'amuser, de l'activité dont l'objectif est l'activité elle-même, elle n'est pas de faire autre chose. Et on avait invité des écoles de design. Ça, c'est la contribution de l'école Eina à Barcelone, qui avait fait un travail sur les typographies des logos des marques. On avait invité des artistes et des designers à montrer leur production dans un contexte dans lequel on n'identifierait pas qu'est-ce que c'était du design et qu'est-ce que c'était de l'art. Ça, c'est une œuvre fantastique de Simon Starling, si je ne me trompe pas. Je dois dire qu'il y a parfois je doute, mais je pense que ça, c'est Simon Starling. Ça, c'était aussi la contribution de l'école de Eindhoven, à l'époque dirigé par Lideveld Edelkort, qui est une, a été une des grandes voix du design international. Et donc, pourquoi faire une expo sur l'art et le design à la fin des années 80? Il n'y avait pas un rapport direct, mais l'expérience de la Hollande m'avait beaucoup frappé, parce que je venais à ce moment d'un pays du sud, d'un pays méditerranéen, où la vie était conçue comme un projet de divertissement, comme un projet de plaisir. Arrivé en Hollande, 3 ans après être à Rotterdam, qui est une ville calviniste, est une ville, un des ports les plus grands du monde, j'ai essayé de faire l'exorcisme d'un choc culturel et de digérer dans ma tête aussi les mécanismes par lesquels l'efficacité et l'obtention de plaisir pouvaient se combiner. Ça, c'est un projet que j'avais développé avec Farid Armali. Farid Armali est un artiste difficile à classer ou à présenter, parce que c'est un artiste avec une production très réduite. Et à mon avis, depuis environ 10 ans, il n'a rien produit. Il a été impliqué pendant quelques 4 ans avec l'école du magasin. Et cette pièce, ce travail qui s'appelle From To, depuis jusqu'à, avait été présenté aussi à la Documenta de Kassel. De quelle année, je ne me souviens pas. C'était la Documenta qui était commissariée par Okuyen Vesor, donc il y a 10 ans. Oui, 10 ans, 15 ans. Il y a 10-15 ans. Ça, c'était un projet qui a failli me coûter la tête. J'ai failli me faire virer. Mais pas à cause de son contenu politique, qui était là aussi, mais à cause du fait que personne n'a rien compris. C'est un travail autour de l'idée de la diaspora, de comment les Palestiniens nés après 48, donc après la création de l'État d'Israël, pouvaient représenter une identité qui ne soit pas liée au retour à la terre. Parce que pour cette génération-là, il n'y a plus de terre à laquelle retourner. Donc, la question était de dire comment représenter une identité culturelle qui ne se fonde pas sur l'appartenance à un territoire, mais qui se fonde sur un mouvement perpétuel. C'est une question absolument fabuleuse du point de vue culturel, du point de vue anthropologique, du point de vue sociologique. Armal, il a pris toutes ces questions-là et il les a mis dans une boîte artistique. Ça a été fait aussi avec des contributions. C'est la première exposition que j'ai faite, toute par email. Tout ce qu'on voit dans l'expo, il n'y avait plus d'assurance ni de caisse. C'était tout envoyé par email. Et c'était ce qui était envoyé, c'était des contributions de personnes et de collectifs, de groupes, qui étaient soit en Palestine, soit dans les camps de réfugiés dans la région, et qui parlaient d'une manière littérale de leur déplacement quotidien de telle partie à de tel endroit à tel endroit, mais qui parlaient aussi des productions culturelles liées à cette construction identitaire en mouvement. En Hollande, à ce moment-là, personne n'a rien compris. Ça, c'était l'an 2000, si je ne me trompe pas. Et heureusement, 2 ans plus tard, ça a été présenté à la Documenta. Et alors, les gens ont continué, le public spécialisé autour de Vite de Ville, les critiques d'art, les artistes, etc., ils ont continué à ne rien comprendre, mais au moins ils ont respecté. Parfois, on se trouve, quand on produit des œuvres, quand on travaille dans le monde du contemporain, et je pense que l'équipe de l'Institut sait ça très bien, on se trouve dans ces situations où on sait que c'est quelque chose de très important, mais on n'arrive pas à le communiquer. Mais on ne peut pas s'empêcher de le faire. Et on arrive dans des situations très intéressantes. Cette exposition, ce projet a été pour moi un des plus importants que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent. Il n'y a pas un livre, il y a seulement ces quelques images. Il y avait une représentation assez beaucoup plus sophistiquée dans la page web de l'artiste, de Farid Armali. Je n'ai pas visité cette page web depuis longtemps, mais il y avait ici une complexité au niveau de la présentation, de l'élaboration, du discours autour du contenu et de la mise en scène absolument fabuleux. Il y avait beaucoup de films, il y avait une grande cinémathèque, avec toutes les productions récentes de films, surtout de documentaires faits en Palestine. Je vais passer assez vite une exposition monographique Eulalia Valldosera, une artiste catalane, mais qui avait travaillé pendant 10 ans dans les biennales et les événements artistiques les plus importants de l'Europe et au-delà, mais qui n'avait jamais eu une expo d'ensemble. Et voilà qu'on a réuni pour la première fois l'ensemble de ses œuvres. Et c'est une artiste qui doit avoir maintenant 50 ans, 50 et quelques, donc elle est, il y a 15 ans, c'était une artiste à la moitié, enfin, elle n'était plus une jeune artiste, mais ce n'était pas une artiste consacrée. C'est l'exemple aussi des différentes typologies d'expositions qu'on arrivait à faire. C'est une exposition extrêmement théâtrale, très arte povera aussi, parce que les matériaux, c'était des matériaux très pauvres. Mais c'était... Chris Del qu'on a fait était très connu pour faire des grandes expositions de thématiques, avec des arguments... Très bien expliqué, où tout était en rapport avec tout. Moi, je trouvais que rien n'était en rapport avec rien. Et c'est pour ça que mon programme a été surtout des expositions monographiques, où j'essayais de concentrer sur le langage d'un artiste, de dire pourquoi cet artiste est important, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Quel est son message? Pourquoi ça a une qualité? Voilà cette œuvre que j'ai retrouvée au MACBA quand je suis arrivé en 2004. Ça c'est en 99, je pense. Comme quoi, les œuvres d'art, elles sont vivantes et elles ne se perdent pas dans la forêt, pas toutes en tout cas. Il y en a certaines qu'on peut retrouver après dans la vie. Je vais essayer d'avancer, surtout parce que je crois qu'il me reste 20 minutes si je veux tenir l'heure de rigueur. Et laisser un peu de temps pour cette conversation ou commentaire que j'espère que nous puissions échanger. Constante a été aussi une des expositions les plus importantes que j'ai faites ou que j'ai pu faire en Hollande. Constante est un peintre lié d'abord au groupe Cobra dans les années, fin des années 40, et qu'un jour, s'ayant lié d'amitié avec Guy Debord et ayant connu les groupes autour de l'Internationale lettriste et plus tard les situationnistes, ils décident que la peinture c'est plus important que, en fait, les artistes, il faut qu'ils changent le monde. Faire de l'art pour décorer des murs, ce n'est pas le boulot des artistes, il faut changer le monde. Et il va consacrer une quinzaine d'années de sa vie à imaginer comment le monde pourrait être autre dans une construction urbaine, dans un nouveau type de ville, de vie en commun, où il n'y ait pas d'architectes qui construisent les maisons et les bâtiments, mais que ce soit les habitants qui les construisent. Donc d'abord, une ville pas construite par des architectes, une ville où il n'y ait pas de... ou une vie en commun où il n'y ait pas de propriété privée, une ville où... le citoyen, l'individu ne doivent pas travailler et une ville où tout le monde serait un mouvement perpétuel. New Babylon, comme ça s'appellerait cette nouvelle ville, était basée en fait sur le mode de vie, était inspirée par le mode de vie des Tziganes, qui sont des nomades qui vont où ils veulent et quand ils arrivent à un endroit qu'ils aiment bien, ils s'y arrêtent. Je sais que parler des Tziganes aujourd'hui en France n'est pas très approprié, mais pour Constant, ça proposait, ça offrait un modèle de vie, une manière d'imaginer que le monde pouvait être autre. Donc, pendant plus de 15 ans, Constant se consacre à construire New Babylon, mais à imaginer, à donner des images de comment cette ville pourrait être. Et il fait des peintures et des maquettes de sculptures et il donne des conférences, il écrit des pamphlets, des manifestes, il va à des congrès d'architecture, il publie beaucoup avec dans les publications de l'International Situationniste. Il élabore l'idéologie urbaine, une partie de l'idéologie urbaine de ce groupe. Et à un moment donné, autour de 1994, il se rend compte que personne ne lui a fait attention, que personne vraiment a entendu ni a compris rien de ce qu'il disait. Il abandonne complètement New Babylon. Tout ce qu'il y avait dans son studio, il le jette par la fenêtre dans le canal Amsterdam, dans son studio, et il retourne à la peinture. Quand je l'ai connu, je lui ai proposé de faire cette exposition monographique sur New Babylon, et il était surpris. Je lui disais, mais monsieur, vous ne vous rendez pas compte, New Babylon représente une partie très importante des idées que ma génération, par exemple, trouve d'un intérêt central dans la notion de faire exposer et communiquer l'art. Et il a dit d'accord, il a été tout sympathique, il nous a beaucoup aidé, mais je pense qu'au fond il trouvait ça très ingénu. Bon, quelques vues de ces maquettes absolument fabuleuses. Constant utilisait ces maquettes pour faire des photos, faire des diapositives, hein, et il les éclairait avec des éclairages très dramatiques et des couleurs et tout ça. Et il les utilisait avant de ses conférences. Il faisait des samplings de musique, de jazz, musique expérimentale et tout ça. Et il mettait ses projections de diapositives avant ses conférences. Et il disait, ceci, ce que vous avez vu, n'est pas New Babylon. New Babylon n'a pas d'image elle-même. Ceci n'est que du savon pour vous nettoyer la vue, pour que vous puissiez imaginer comment ça pourrait être. Ce qui me paraît une manière très intéressante de décrire la réalité virtuelle quand il n'y avait pas encore de réalité virtuelle. Je pense que après Constant, j'ai des images. Ça, je vais pas. Voilà. Je pense que je vais passer à, après la production et après l'exposition, je vous propose de parler de la collection de l'art. Comment on collectionne, chaque musée fait des collections d'une manière différente, mais les problèmes, les questions, les limites, les enjeux des collections d'art contemporain aujourd'hui. En 2004, j'arrive au MACBA. J'ai 20 minutes presque. En 2004, j'arrive au MACBA, un musée qui a été ouvert au public en 1995. Bâtiment construit par Richard Meyer dans un quartier au centre de Barcelone qui avait été traditionnellement très pauvre. Donc une collection jeune dans un pays jeune et une démocratie aussi jeune. Il faut imaginer que vous savez que en 1995 le général Franco meurt après 40 ans de dictature militaire, et que les années, ce qu'on appelle entre 1995 et 1975, le pays est en pleine transition. Après 1985, la ville de Barcelone et le gouvernement catalan commencent à collectionner l'art contemporain. Mais c'est les premières collections d'art contemporain. Ça, c'est une présentation, une exposition. Ma première, à mon avis, c'est ma deuxième exposition de la collection du musée, avec déjà des achats récents, des achats que j'avais pu faire. À mon avis, ça c'est 2009. Et ça, c'est une œuvre très importante de Laurent Winner, un artiste qui pour moi était très important et qui, je pense, est très important dans l'histoire de l'art contemporain et qu'on a pu acheter grâce à un don d'un particulier au début de ma direction. Cette présentation de la collection cherchait à établir des points de repère pour une narration historique dans un contexte urbain, un contexte culturel et un contexte donc local avec des caractéristiques très particulières. J'ai fait référence à la dictature de Franco et la période de transition pour arriver donc à au début des collections. Et une des préoccupations que j'avais, c'est où commencer le récit, dans quel endroit et dans quels événements va-t-on faire démarrer le récit historique de cette collection. Moi, je pense, dans le cas du MACBA, et ce qui m'intéresse personnellement, c'est de faire parler les collections d'art contemporain sur le monde dans lequel on vit. Je ne peux pas imaginer que les collections d'art contemporain soient seulement des collections de trophées ou des collections de morceaux, des morceaux choisis ou des chefs-d'œuvre. Mais comme mon expérience personnelle m'a toujours dit, un artiste m'a toujours amené à un autre artiste. Et je pense que de cette même manière, une œuvre d'art doit nous amener toujours à une autre œuvre d'art. Donc où faire démarrer ce récit. Dans ce cas-ci, je l'ai fait démarrer en 1955 dans une année dans laquelle à Barcelone a lieu l'exposition d'œuvres des collections du MoMA qui sont présentées dans le contexte de la Biennale ibéro-américaine. Dans les années 50, les Américains présentent dans l'Europe des expositions de leurs collections, de leurs artistes contemporains. Et ça, c'est, on voit très mal, je vois très mal même dans l'écran de mon ordinateur. Donc là, vous devez imaginer des photos du vernissage de cette exposition avec Franco et tous les officiels du régime, de cette exposition de l'art américain et sa répercussion, comment ces événements ont été repris dans la presse locale. À droite, en bas, c'est le catalogue. C'est un catalogue très, très, très curieux. Je ne peux pas m'étendre en détail là-dessus, mais c'est vraiment un cas très particulier de l'histoire de l'art espagnol, en tout cas de l'art à Barcelone. Comment le régime de Franco, comment la société catalane et comment les artistes de l'époque découvrent la peinture abstraite, qui était complètement presque. Elle n'était pas interdite. Mais elle était presque poursuivie par le régime, parce que le régime proposait une peinture d'ordre réaliste, assez populiste. Avec un accord qu'on a eu avec c'est une grande collection allemande dont le nom me reviendra. Einstein, tu te souviens peut-être? Hein? Bon. Ça viendra. C'est une grande collection allemande qui a les peintres américains, pas de la collection du MoMA, évidemment, mais des mêmes peintres de la même époque. Clifford Steele, il y a Morris Louis, Stella, Franz Klein, etc. Donc on avait pu, ces peintures ne nous appartiennent pas, elles étaient un dépôt de long terme, mais on avait pu reconstituer l'ambiance esthétique de cette exposition pour essayer de visualiser le choc que l'artiste catalan de cette époque, le bourgeois catalan de cette époque, les membres du gouvernement de cette époque avaient eu, voyant ces plages de couleurs, ces grandes extensions de couleurs et des gestes abstraits, que tout de suite sont suivis par des artistes espagnols comme Hernández Pizjuán, comme Tapies, comme Saura, comme aussi dans la sculpture Chillida, Oteiza, etc. Donc c'était une manière de faire démarrer ce récit historique avec l'éclosion le moment où on accepte une nouvelle manière de faire de l'art qui en fait chez nous va constituer le classicisme contemporain. Pour beaucoup de nos citoyens, dire art contemporain, c'est dire peinture abstraite expressionniste. Voilà Oteiza, Chillida, Millares, très important. Et Oteiza et Chillida avec, ici on avait inséré l'œuvre d'une jeune artiste que j'avais fait acheter déjà assez vite, hollandaise. Et j'ai vraiment des trous de mémoire terribles parce que, voilà, la collection allemande, c'est collection Onash. Donc, si j'ai pu me souvenir de la collection Onash, je suis sûr que je finirai par me souvenir du nom de l'artiste hollandaise dont nous voyons la projection d'une vidéo qui est en fait un parcours sur les pages d'un livre de Chillida, précisément. Et voilà, Constant. Une des premières œuvres que j'ai fait acheter, c'est une œuvre de 1956 absolument exceptionnelle. Constant Nieuwenhuis venait de mourir, donc j'ai pu parler avec la famille et faire cet achat très vite. C'est une sculpture qui est une des premières sculptures autour du thème de New Babylon. Et après ces salles où on a vu la peinture abstraite, la forme dépourvue de signification explicite avec le monde, on revient à la politisation de la forme, on revient à l'incrustation de la nature de l'œuvre dans les problèmes de ce monde, on revient à l'implication de l'artiste dans le projet de changer le monde. Ça, c'est des documents. Une des caractéristiques du MACBA, même longtemps avant que j'arrive dans ce musée, était d'inclure des documents et des éléments non, donc des non-œuvres d'art dans le discours artistique, parce que nous croyons, et j'en suis convaincu, que l'histoire de l'art contemporain ne peut pas être faite, ni écrite, ni comprise seulement à partir d'œuvres d'art. Il faut avoir recours d'abord aux documents artistiques, dans des revues, des publications, des lettres, des croquis, même des factures. Mais aussi, il faut tenir compte de comment les artistes ont exposé leurs œuvres. Donc, l'histoire de l'art contemporain, à mon avis, c'est l'histoire des expositions de l'art contemporain. Voilà encore des documents sur New Babylon. Et j'avais dit qu'à un moment donné de sa vie, je pense que c'était en 1974, Constant se rend compte, personne n'a rien compris, personne lui fait attention, les gens s'en foutent complètement de ce qu'il propose, et il arrête New Babylon. Mais en 1974, c'est l'année dans laquelle Hans Hacke, l'artiste allemand qui vit déjà à New York depuis des années, fait une œuvre absolument exceptionnel et central dans l'histoire de l'art contemporain qui s'appelle Chapolsky & Company. C'est l'œuvre qu'on voit au fond. Enfin, l'œuvre que vous devrez imaginer qui est au fond avec ses photographies et ses panneaux. Je suis désolé de la qualité de ces reproductions, mais qu'est-ce que l'art sinon l'imagination? Hans Hacke a produit cette œuvre qui, en fait, déclare que la ville n'est plus la scène de l'utopie, mais c'est le centre de la spéculation immobilière. C'est la fin des utopies. Et ça me paraissait très important de contraster précisément la dernière utopie globale qu'un artiste ait fait en Europe, New Babylon de Constant, avec une des premières déclarations de la fin des utopies à la moitié des années 70. En 73, il y a la grande crise du pétrole. Moi, je m'en souviens, j'étais un gosse, mais c'était en Espagne, c'était la catastrophe. Et en 74, c'est très important de constater cette action, d'arrêter de voir la ville comme l'endroit de l'utopie. On avait montré ça dans les moniteurs, on avait des vidéos de Gordon Matta-Clark, aussi très critique avec le devenir de l'architecture et de la ville comme espace de vie. La salle suivante était consacrée aux artistes qui s'en vont de la ville, qui vont dans la nature, Lothar Baumgarten, avec des photos faites dans les forêts du Venezuela, des paysages qui représentent aussi ce n'est pas du land art, mais quand même, j'ai essayé de parler que presque en même temps que la ville devenait le centre de travail de tellement d'artistes, en fait, d'autres artistes prenaient le chemin opposé et quittaient la ville pour précisément aller placer leur travail dans cet ailleurs que la nature lointaine suppose. Évidemment, Robert Smithson et le Spiral Jetty est le grand monument de cette mouvance ou de cette tendance qui consiste à s'éloigner de la ville ou de la métropole. En fait, c'est ce qu'en anglais on appelle du easy collecting, parce que le film est très bon marché. Et c'est une manière, on peut pas mettre le Spiral Jetty dans un musée, ça c'est complètement absurde. Mais le film nous transporte non seulement dans un autre endroit, mais aussi dans un autre temps. C'est très intéressant comment les images, même s'il n'y a pas d'esthétique qui nous l'indique, nous transportent dans un autre temps. Une référence aux abstractions géométriques des années 60, c'est un autre type d'abstraction dans lequel on combinait le travail de Pic Adrian, un artiste roumain qui se réfugie en Espagne au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Sur le socle blanc, vous devriez voir, parce que je pense que personne ne voit, la sculpture de Gego, une artiste vénézuélienne née en Allemagne et aussi émigrée au Venezuela en fuyant les nazis. Une sculpture faite avec des fils métalliques. Et au milieu de la salle, la sculpture d'un jeune artiste péruvien qui s'appelle Armando Andrade Tudela. Voilà d'autres vues avec des pièces de Soledad Sevilla, au fond, une artiste espagnole qui a travaillé au début de sa carrière l'art optique. Et d'autres, Pablo Palazuelo, un artiste aussi qui, aux années 50, fait une abstraction c'est pas une abstraction rationaliste à la Mondrian, mais ce n'est pas non plus une abstraction expressionniste matérialiste. Je vais accélérer parce que je consomme mon temps. Voilà, je demande 10 minutes supplémentaires. Un moment très important, c'est l'art pop aussi, le pop art dans lequel des artistes catalans comme Joan Rabascal, Jaume Xifra ou Miralda, des artistes aussi qui ont produit une partie importante de leurs œuvres en France, se côtoient au travail de Richard Hamilton, dont on a aussi une très bonne représentation, enfin très bonne, un nombre important d'œuvres dans la collection. Ça, c'est des œuvres faites par Richard Hamilton et Dieter Roth à quatre mains. C'est des portraits qu'ils avaient travaillé ensemble, Joan Rabascal, Jaume Xifra et Zouch, un peintre fou, psychédélique de cette époque, et Raimundo Patiño, un artiste, je ne peux pas m'empêcher de dire deux mots sur cet artiste militant qui, dans les années 70, en pleine dictature de Franco, quand il était interdit de parler, d'utiliser les langues différentes que l'espagnol en public et dans des manifestations culturelles, il a fait une bande dessinée. À mon avis, c'est une œuvre pop. C'est notre. Imaginez que Roy Lichtenstein est punk. Eh bien, vous auriez Raimundo Patiño. Et il a fait une bande dessinée qui explique l'histoire d'un complot entre le CIA, l'intelligence américaine, et le Vatican pour assassiner la dernière personne qui parlait le galicien. Et ça, c'est toute l'histoire de la dernière personne qui parlait le galicien et qui lutte pour sa survie contre le complot des Américains et du Vatican. Et ça, c'est en 71. J'accélère. Voilà une œuvre de David Lamelas, une œuvre que nous avions reproduite pour la première fois à Vite de Vite. Dirk Snauert, ancien directeur de cette institution et à l'époque directeur de la Kunstverein à München, et moi, on avait fait la première exposition un peu rétrospective d'un artiste que nous connaissions très bien de l'époque de Bruxelles, mais que personne à peu près avait vu son travail. Et on a découvert, enfin, on a fait une exposition, ça c'est un travail qui s'appelle de 1972, qui s'appelle Situation de temps, et qui montre, c'est une critique au monde de l'hypercommunication. C'est des télévisions, des postes de télé vides, avec seulement de la neige et du bruit déconnecté. C'est une œuvre qui utilise le minimalisme comme stratégie, mais au fond, nous permettait de parler d'une tendance de l'art pop militant européen, qui est la critique aux moyens de communication, avec des œuvres comme de Muntadas, grand artiste aussi bien connu en France, l'œuvre de Eulalia Grau, une artiste féministe très militante et une grande découverte pour nous. Enfin, c'est une des artistes absolument fascinantes des années 70 à Barcelone, qui est complètement disparu. On a fait une rétrospective de son travail récemment. Le travail de, encore, Joan Rabascal, Gilles Wollmann, à droite, un artiste lettriste peu connu en France, mais à mon avis très important. Je passe encore des œuvres de Muntadas, Léon Ferrari, l'artiste argentin, qui critique c'est une œuvre assez anticléricale. Et je finis déjà avec l'introduction des œuvres qui nous situent dans la dimension du temps. C'est une œuvre de Judith Barry, essentielle dans l'histoire de la vidéo-installation. Je dirais en termes de collection, très abordable économiquement. Mais c'est une œuvre des années... C'est 1984. C'est le tout début des installations de vidéo qui, à l'époque, se faisaient avec du cinéma. Il n'y avait pas encore de vidéo. Joan Jonas... C'est l'œuvre qu'avait faite aussi pour la documenta faite par Rocky and Vesor, Lines in the Sand, qu'on a pu acheter dans des conditions absolument très, 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 très abordables. Et c'est une grande pièce de maturité de cet artiste qui est centrale dans l'histoire de la performance et de l'installation. Peter Friedel, dans une section qui parlait du jeu, avec Øyvind Fahlström à nouveau. Une œuvre qui combine précisément cette idée de plaisir, de jeu et d'éducation qui est le MIT Project de Matt Mullican. Ça, c'est, je pense que quand j'ai été nommé, la fondation Macba, qui est la fondation privée qui nous donne de l'argent pour acheter la collection, c'est une sorte de super ami du Macba, m'a fait un cadeau vraiment exceptionnel en permettant d'acheter cette œuvre qu'on a dû monter au Macba dans sa version réduite. C'est une œuvre immense, mais pour moi, une des œuvres très importantes de l'histoire de l'art de la deuxième partie du XXe siècle, ou de la fin du XXe siècle. D'un artiste aussi très connu chez vous. Voilà, je pense que je dois m'arrêter ici, et avec donc cet artiste qui nous connecte, qui nous rassemble dans la programmation, dans la collection et dans l'esprit. Je voudrais vous remercier de votre patience, de votre attention, et à nouveau remercier les amis de l'Institut d'Art Contemporain pour cette invitation. Merci. Alors, pour moi, vous êtes un peu dans le noir. Donc, je fais confiance à l'équipe de l'Institut pour distribuer les paroles.
Bonsoir, merci pour toutes ces présentations, explications. Je voulais savoir si vous avez beaucoup travaillé sur l'architecture avec les architectes, et si vous avez côtoyé Yona Friedman dans ses réflexions et ses villes spécifiques comme il voulait les construire ou qu'il ne les a jamais construites, mais dans les mêmes réflexions un petit peu que des artistes que vous nous avez présentés ce soir.
Oui. Très, très bonne question. J'ai travaillé très peu avec des architectes. Je les avais à côté et j'ai appris beaucoup avec eux, mais j'ai fait l'exposition avec Nigel Coates, qui était en parallèle avec une expo de Sir Edwin Lutyens. Et j'ai fait une expo sur l'architecture du paysage aussi au XXe siècle. Et j'ai beaucoup d'amis architectes et j'ai intégré récemment, depuis quelques années, l'architecture et le design dans la narration des collections du Macba. Mais à l'époque, je ne connaissais pas Yona Friedman. Je l'ai découvert beaucoup plus tard. Je l'ai découvert. J'aurais dû le découvrir à l'époque quand j'étais. Je voyais beaucoup des gens comme Frédéric Miguerou, qui a été directeur du FRAC Centre, et après il est allé à Beaubourg diriger les collections d'architecture. On était très proches et on se voyait très souvent et on déconnait beaucoup et on s'amusait beaucoup. Et je suppose qu'il aurait dû m'en parler, mais je ne me souviens pas qu'il ait été significatif pour moi. Je l'avais pas enregistré. J'ai découvert Constant, j'étais fasciné par Constant. Avant que j'aille à Bruxelles, quand j'ai vu un jour l'exposition sur les situationnistes à Beaubourg, et de cette exposition, je ne me souviens de rien que des œuvres de Constant. Le reste, j'ai complètement oublié. Mais quand j'étais à Bruxelles, je voulais faire une expo de Constant. Et les Hollandais ont trouvé que nous n'étions pas un musée trop. Enfin, nous n'étions pas un musée, c'était une salle d'exposition. Donc, je n'ai pas pu la faire. Et j'ai pris ma vengeance à Rotterdam. Plus tard, j'ai été voir Ricardo Bofill, qui est un architecte aussi bien connu en France, connu surtout pour avoir été à la tête d'un mouvement connu comme le postmodernisme en Europe, qui plus ou moins consistait dans son cas à prendre des formes et le langage de l'architecture classique et l'élargir dans des dimensions de gratte-ciel. Et alors, quand je suis allé voir Ricardo Bofill pour parler de son œuvre du début, donc des années 60, il m'a dit « L'architecte à qui je dois le plus dans ma carrière, c'est Yonah Friedman. Quand j'étais jeune et j'ai commencé à faire de l'architecture, je voulais faire comme Yonah Friedman. » Et évidemment, à ce moment-là, je le connaissais déjà, mais j'avais jamais, à l'époque, je pense Yonah Friedman et Constant sont très proches. Mais ni Constant m'avait parlé de Yonah Friedman, ni quand j'ai fait les recherches sur Constant, je suis tombé dessus. Donc, comme quoi, parfois, les connexions ne se font pas.
Autre question ?
Mais là, j'ai pas montré des images d'une exposition que j'ai faite à la Serpentine Gallery et que Julia Payton-Jones, sa directrice, m'a demandé de faire au début des années 90. Elle est venue me voir en disant « Vous êtes le spécialiste des rapports entre l'art et l'architecture et je voudrais vous demander une expo sur l'art, des rapports entre l'art et l'architecture. » Moi, j'étais un gamin, je connaissais rien. J'avais pas la moindre idée de quoi elle parlait, mais j'ai dit « Ok. » Et C'était très. À l'époque, il y avait une partie du discours sur surtout la sculpture, pas la peinture, pas la photo, mais surtout pour la sculpture, le rapport avec le langage de l'architecture était très important. Il y avait des symposiums et des congrès et des. Le leitmotiv art-architecture, ça, il y a eu un moment où on l'entendait partout.
Bonjour. Je vais sûrement te dire un tas de choses très convenues, mais c'est des sentiments qui me sont venus en vous écoutant. L'art actuel s'interroge sur le monde et s'interroge sur lui-même. Vous avez souvent employé la formule de changer le monde et quelque chose qui m'interroge, c'est que il y a eu la période, enfin les grandes choses qu'on connaît, Warhol, la sérigraphie, c'est-à-dire que l'art a bousculé tous des codes qu'il pouvait y avoir, qu'est-ce qui pouvait faire œuvre d'art ou qu'est-ce qui ne faisait pas œuvre d'art. Enfin, il a bousculé beaucoup de choses. Et je me demande si un des points qui lui manque à bousculer, c'est peut-être une question idiote, c'est pas de... Ce qui manque à l'art maintenant, c'est de tuer l'artiste, parce qu'on cite tel nom, une œuvre de, enfin, on met des gens sur des piédestals ou on leur colle des petites étiquettes, et jamais personne n'a jamais rien fait seul, et c'est un premier point déjà, l'artiste me dérange, et le fait qu'il soit entre des murs ou des expositions, je sais pas, si c'est pas une limite aussi aux questions qui sont posées justement sur le... cette idée de changer le monde ou de s'interroger ou d'avoir une interaction avec le monde qui soit entre des murs, est-ce qu'il ne faudrait pas, enfin je ne sais pas, ce qui m'interroge, c'est il ne faudrait pas que l'art se dilue ou n'existe plus pour exister peut-être.
Oui. C'est vrai que un des phénomènes les plus répandus dans les derniers 10-15 ans, c'est le fait que le monde de l'art a été réduit en grande partie à des marques. Les artistes sont des marques. Et si tel ou tel artiste n'est pas une marque, n'existe pas. Les musées sont des marques. Et la plupart des gens... évidemment, vous en êtes des exceptions très importantes. Quand on leur dit musée d'art contemporain, ils pensent Centre Pompidou, Tate Modern, MoMA. Et dans les derniers 10-15 ans, je pense qu'on constate cette réduction du monde de l'art à des marques artistiques. Qu'est-ce qui a contribué à tout ça? Moi, je pense qu'il y a une chose qui a fait tout ça et que j'ai appris de Brian O'Doherty. Brian O'Doherty est un artiste qui, dans les années 70, vers la mi des années 70, a écrit 3 articles qui ont été publiés en anglais dans Art Forum et que, dans le début des années 80, ont été publiés en forme de livres. Et je suis sûr que ça existe en français. Je pense que c'est la Maison Rouge. À mon avis, c'est Patricia Falguière qui a traduit ça au français. A écrit un livre fondamental pour comprendre l'art de l'art contemporain qui s'appelle Inside the White Cube, dans le cube blanc. Dans un article récent, Brian O'Doherty parle de comment l'argent a complètement bouleversé le système de l'art. Parce que jusqu'il y a 15-20 ans, il n'y avait pas, le monde de l'art n'avait pas été tellement inondé par l'argent. Et derrière l'argent vient l'industrie, ou avec l'argent vient l'industrie de la communication et l'industrie le marketing. Et à mon avis, en ce moment, une grande partie de ce qu'on dit sur l'art devrait être dans les pages de marketing des journaux, s'il n'y avait pas section de marketing. Parce qu'il y a longtemps que je ne... sauf dans des journaux, par exemple, comme New York Times ou Le Monde, ou peut-être Guardian. Mais la plupart des informations des médias sur l'art font référence au prix, à l'argent et au budget. Donc la discussion sur l'art tourne autour de l'argent. Donc je pense qu'il ne faut pas tuer les artistes, mais c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir rentrer à nouveau dans un monde de l'art où il y ait des œuvres d'art et des valeurs, pas seulement des prix, des ventes aux enchères et des collectionneurs étoiles ou des musées superlatifs. Moi, j'ai été récemment j'ai été élu président du CIMAM, c'est le Congrès international des musées et collections d'art moderne et contemporain. C'est un comité international de l'ICOM. Et on organise chaque année une conférence annuelle. Enfin, évidemment, désolé de la redondance. Mais l'année prochaine, la conférence aura lieu à Doha, au Qatar. Et on a été au Qatar avec la directrice exécutive du CIMAM pour voir les lieux et comment on pourrait organiser tout ça. C'était juste après que la princesse Almayassa ait acheté le triptyque de Bacon pour 142 millions de dollars. Le prix le plus haut qu'on ait payé pour une œuvre d'art contemporain. Pendant des jours, j'ai avalé des articles parlant des 142 millions de dollars. Mais je ne me souviens pas d'un paragraphe qui m'explique pourquoi cette œuvre est importante. Et dans le monde des musées, c'est à peu près la même chose. Et souvent, on trouve dans des conseils d'administration des musées, dans des départements de communication ou dans des départements de marketing, etc., des discussions précisément entre la valeur culturelle d'une œuvre et la valeur de marque. Ça, c'est réel. Dans les années 90 ou début des années 2000, quand je parlais avec mes collègues américains ou anglais, tout ça, département de conservateurs, des curators, ils me disaient, oh oui, on se bagarre avec le département éducatif parce que ils veulent mettre des textes partout, ils veulent expliquer ceci, ils veulent expliquer cela. Bon, maintenant, il n'y a plus de bagarre avec le département d'éducation, il y a des bagarres avec le département de marketing. Parce que c'est eux qui veulent finir par faire l'expo. Mais bon, ça c'est une vue un peu, si vous voulez, je construis un peu un cliché, mais les clichés servent à quelque chose. Et dans ce cas-ci, c'est quelque chose que je pense qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est pour ça que dans mes expositions et dans la collection que j'essaye de développer, et je vois aussi que des expositions des institutions comme l'Institut, on cherche à montrer des artistes qui sont en dehors des sentiers battus, qui ne sont pas des marques, mais qui font un travail absolument nécessaire et de première qualité dans le développement des langages de l'art de notre temps.
Puisque vous parlez d'argent, comment voyez-vous l'avenir de votre musée dans les revendications autonomistes, voire d'indépendance de votre région espagnole ?
Une question très intéressante. Je pense qu'on vit un moment historique très intéressant. Un moment historique où il y a eu dans les derniers trois ans, il y a eu un changement très profond des sentiments politiques en Catalogne. Le séparatisme ou l'indépendantisme, jusqu'il y a 3-4 ans, peut-être 5 ans, mais pas plus de 5 ans, le sentiment indépendantiste était promu par une poignée de gens qui se situaient à l'extrême du panorama politique. Je ne dirais pas qu'ils étaient des extrémistes. C'était dans le éventail politique catalan, il y a toujours eu, depuis la récupération de la démocratie, il y a toujours eu un parti ou plusieurs partis, mais en tout cas c'était un parti en concret qui défendait l'indépendantisme. Qu'est-ce qui a changé ? La réalité aujourd'hui, c'est que le sentiment indépendantiste n'est plus les affaires d'une poignée de radicaux. C'est le sentiment cultivé par la majorité des citoyens. Et cette majorité n'est pas une majorité d'une classe sociale déterminée. Elle est transversale. Ce sentiment est cultivé j'allais dire la classe ouvrière, il n'y a plus de classe ouvrière, mais chez les employés, chez les propriétaires, même les industriels. Et ce qui est absolument incroyable, c'est le pathétisme et le manque de vision, à mon avis, ça c'est une opinion personnelle évidemment, des leaders politiques des deux côtés. Je pense que la situation actuelle est un cul-de-sac très mal fait, très mal cousu. Je n'ai pas la moindre idée de comment ça va évoluer, mais je regarde tout ça avec grand intérêt parce que c'est un moment historique extraordinaire. Il y a deux ans, moi je pensais que de ma vie, je ne verrais pas l'indépendance de la Catalogne. Aujourd'hui, j'en suis pas tellement sûr. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement espagnol va même pas tolérer un référendum, d'après ce qu'ils disent. et que le gouvernement catalan répond à cette majorité de personnes qui pensent que la vie irait mieux si la Catalogne était un État indépendant. Évidemment, dans la communauté européenne, ça c'est une autre chanson. Et comme j'ai dit, le niveau des débats et des discussions entre les deux gouvernements me paraît vraiment pathétique, très, très bas. Mais la réalité est ça. Ma femme est basque et il y a de ça, il y a au moins 3 ans, un jour, on était les deux seuls à la maison, on dînait, et tout d'un coup, elle me dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, alors, mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des années, moi-même et mes frères et sœurs, nous sommes partis du Pays Basque parce que ne pouvions pas travailler dans un climat nationaliste qui promouvait tout ce qui était basque et en langue basque et tout ça, et ne faisait pas un travail de critique culturelle sérieux. Ma femme et ses frères et sœurs travaillent dans le monde de l'art, la littérature, la musique et le cinéma et tout ça. Donc nous sommes tous partis à Madrid. Et nous nous sommes mariés il y a longtemps et je t'ai suivi dans plusieurs endroits du monde, des villes et des pays, etc. Et tout d'un coup, tu m'amènes ici et tous nos amis sont des indépendantistes et ça ne marche pas. Je dis oui, mais c'est vrai. Mais nos amis sont des écrivains, des artistes, des directeurs d'institutions, des collectionneurs. Donc des collectionneurs, des gens des gens d'affaires. Nous avons quelques amis qui pourraient être classés comme des extrémistes ou des agitateurs ou des activistes politiques, mais en général, elle faisait référence à des gens que traditionnellement on a appelé la bourgeoisie. Et voilà, on est là. Irait ça mieux économiquement si on était indépendant? Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui défendent cette option-là. Il y en a encore plus qui la croient. Donc. Merci. Voilà. Et s'il y a plus. Il y a pas d'autres questions? Alors, merci beaucoup. Et j'espère. Ah, une chose avant que vous partez. Soyez toujours les bienvenus au MACBA. Les amis de l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne sont aussi les amis du MACBA. Donc, maintenant qu'on aura. Je ne sais pas si le TGV Barcelone-Paris passe par Lyon, oui? Oui? Ben alors, voilà. Vous n'avez plus d'excuses. Aussi, il y a des avions et des autoroutes. Donc, soyez les bienvenus. Merci.